Merci Seigneur pour ta parole qui est une lumière, Seigneur, sur notre sentier, Seigneur, une lampe à nos pieds. Merci parce que c'est elle qui nous redresse, qui nous libère, qui nous enseigne. Merci Seigneur que ce soit ton Esprit Saint, Seigneur, qui conduise ce message dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais continuer dans la lignée de ce qu'on a déjà vu. On avait vu qu'il y avait deux types de messie et avec deux types de caractères. Il y avait le messie fils de Joseph, qui est le messie souffrant, celui qui a été vendu par ses frères, celui qui a été en prison en Égypte. Ça, c'est, vous regarderez ça dans la prédication qui sera sur Internet. Et après, je vous avais dit, il y avait le Messie, fils de David, qui est le Messie royal, celui qui fera justice et celui qui établira le royaume d'Israël sur cette terre et sera le roi de toutes les nations. Alors, on ne peut pas faire l'économie, puisqu'on a vu Joseph, la vie de Joseph. On ne peut pas faire l'économie de voir la vie de David. C'est moindre des choses. Alors, on connaît tous David, qui veut dire « bien-aimé » en hébreu. Mais jamais personne n'a porté aussi mal ce nom. Bien-aimé, dans sa jeunesse, David n'a pas été bien-aimé. C'est un enfant, parce qu'on peut parler de sa jeunesse, hein, vraiment. Après, on connaît le roi David, mais avant, il est passé par des péripéties. C'était un enfant rejeté. Alors vous pouvez le lire dans 1 Samuel 16. On le lit, mais on ne le voit pas vraiment. Ou ceux qui le lisent comme ça, ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors dans 1 Samuel 16, c'est l'histoire du roi Saül qui a été rejeté parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc Dieu demande à Samuel, au verset 1, « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, et je t'enverrai chez Isaïe, bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Alors là, je m'arrête un petit peu. Il y a déjà une similitude entre David, enfin ce qui va se passer avec David et le Messie. C'est exactement la même similitude que les rois mages, enfin les mages et Hérode. S'il l'apprend, il me tuera. Il tuera, c'est-à-dire Saül savait qu'il était rejeté. Il n'attendait qu'une chose, c'est de savoir qui allait le remplacer pour le tuer. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alors Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. Et il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils. Donc, pour offrir un sacrifice, il faut être sanctifié. C'était tout un processus où on se lave le corps, etc. Il y avait plein de choses qu'il ne fallait pas faire avant le sacrifice. Et là, on voit que Samuel sanctifie Isaïe et ses fils. Et si on lit le suite du texte, sauf un. Oublié. Et là, il les invita au sacrifice et lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant Eliab, le fils aîné, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. l'Éternel lui dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur et à sa taille, car je l'ai rejeté. » Lui aussi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous vous souvenez que David était un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ? Il louait l'Éternel dans les chambres, il y a d'autres... C'est interactif, vous avez le droit de parler. Il sait se repentir, il sait dans quel état il est, il sait s'humilier. Il prenait soin de ses brebis, il défendait, mais il avait surtout le zèle de l'Éternel et qu'il ne fallait pas insulter ni Israël, ni l'Éternel, ni l'armée d'Israël. Mais il y a encore autre chose qu'il va faire que je vais vous faire découvrir à la suite du texte. Donc, Isaïe appela le deuxième, Abinadab, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas encore choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mince. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le. Ça, c'est la traduction française. On va voir un peu la traduction telle qu'elle est réellement, que vous pouvez lire si vous lisez les Strong que je vous ai donné. Est-ce là tous tes fils ? C'est en fait, en hébreu c'est tamam, c'est est-ce là tous tes fils qui sont rendus saints, complétés, rachetés ? Esaïe avait racheté ses fils. Racheté de quoi ? Alors je vais vous raconter une petite histoire familiale, si vous lisez la Bible. Souvenez que la grand-mère de David, c'est qui ? C'est Ruth. Et l'arrière-grand-mère de David, c'est qui ? Rahab. Enfin non, c'est même pas la grand-mère et l'arrière-grand-mère, excusez-moi, c'est l'arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-grand-mère. Il y avait une Moabite et une égyptienne, parce que Rahab habitait Jéricho, mais c'est un prénom égyptien. Une égyptienne, ce n'était pas une cananéenne, et une moabite. Or, il est dit dans la loi que le moabite, n'habitera pas et ne fera jamais partie de l'assemblée de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accueilli, etc., le peuple d'Israël quand ils ont traversé le territoire. Et qu'ils ont envoyé même le prophète Baal pour maudire le peuple d'Israël. Donc, aucun Moabite masculin n'aura le droit de citer en Israël. Ça a suivi la famille, parce que bon, les gens lisaient un peu les Écritures comme on les lit chez nous. Donc, tout de suite, Moabite, Moabite. Donc, toute la famille d'Isaïe est illégitime et n'a aucun droit de citer en Israël. C'est des... comme on dit là-bas, des mamzers, des bâtards. Parce que moi, Ruth était une servante étrangère. Et pour couper cette malédiction, il fallait racheter ses fils pour qu'ils soient israélites. Il y avait un seul moyen, alors là je ne rentre pas trop dans les détails, un seul moyen aussi pour racheter ses fils, c'était de prendre une servante étrangère, de coucher avec, de racheter ce fils-là qu'il aurait eu avec cette servante, et comme ça, il rachetait tous ses fils. C'est un détail rabbinique. C'est ce que Isaïe a voulu faire. Sauf que Madame Isaïe, ne le voyait pas cet œil-là. C'était l'antille Sarah. Elle dit, non, non, il ne va pas coucher avec ma servante. Donc il a dit à sa servante, toi, tu restes là, et c'est moi qui vais y aller. Et donc, la servante, bien sûr, n'a jamais été enceinte. Par contre, Madame Isaïe a eu un enfant, qu'elle a appelé David. Sauf que Monsieur Isaïe, qui ne devait pas avoir beaucoup de relations avec Madame Isaïe, a dit, mais comment elle est enceinte, elle? Elle a fait un bout de brousse. Et donc, Isaïe n'a jamais reconnu son fils comme étant le sien. Or, dans la Bible, il est bien dit, donc on lit les généalogies de Jésus, et aussi bien dans Matthieu que dans Luc, je crois, il est bien marqué qu'il est fils d'Isaïe, même dans les prophéties, il est fils d'Isaïe. Sauf que Isaïe avait un gros doute sur la paternité de ce fils. Voilà. Et donc Isaïe avait rejeté ce fils, tout simplement. Et alors on va le voir toujours dans le 16, quand il dit il reste le plus petit, il reste encore le plus petit qui fait paître les brebis. En fait, c'est gentil dans la traduction française, mais en fait, la traduction hébraïque, elle est plus dure. Je peux vous dire, il y a encore l'insignifiant, le résidu que l'on a épargné, laissé derrière, à garder les brebis. Voilà l'amour que le père de David portait à son fils. Et plus encore, ça aurait arrangé Isaïe que son fils soit tué par un lion ou par un ours, puisqu'il a envoyé son fils dans l'endroit le plus dangereux d'Israël, qui est le nord de Jérusalem, avec un troupeau de brebis chétives pour les faire garder, et c'est là qu'il y avait les lions, les ours. Et c'est ce qui a permis à David de s'entraîner avec la fronde. Vous connaissez, hein, j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours. C'est ce qui devait arriver, il a été attaqué plusieurs fois par des lions ou par des ours, mais il les a tués. Voilà l'origine de pourquoi David n'est pas présent au moment de l'onction. Alors Samuel lui dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, or il était roux. La vraie traduction, il était roux comme Ésaü. C'est un rouquin. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les rouquins, on les trucidait aussi. Donc il était roux, mais ce n'était pas pour ça qu'il avait été rejeté. Il avait de beaux yeux et une belle figure. Donc il était beau aussi. Mais de beaux yeux aussi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il voyait spirituellement. Il voyait spirituellement et il avait une belle figure. Ce n'est pas parce qu'il avait de beaux yeux. Samuel, il dit, lève-toi, loin-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et alla à Rama. Samuel n'était pas très heureux du choix de Dieu. Aussi parce qu'il connaissait l'histoire d'Isaïe. Il dit, mais pourquoi Dieu a oint ce bâtard? Or, ce n'était pas réellement un bâtard, c'était parce que Ruth était légitime. Donc, ce qu'avait fait Isaïe, ça ne servait absolument à rien. Mais en plus, ce n'était pas un bâtard parce qu'il était bien de son père et de sa mère. Ça, c'est le premier passage. Alors, pourquoi je dis ça? Comment je sais ça? C'est parce qu'on le voit dans les psaumes aussi. Lisez les psaumes de David, la souffrance qui en transparaît. Soit il était vraiment roi d'Israël, mais les psaumes ont été écrits quand il gardait ses brebis, la plupart du temps. Et on peut lire dans le psaume 51, par exemple, verset 7. Psaume 51, verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc même lui, des fois, on lui a tellement dit que C'est un bâtard qui dit, mais ma mère, elle a péché, quoi. Parce que, voilà, c'est pas les relations sexuelles qui sont un péché. C'est proprement dit l'histoire de sa mère. Et dans Psaume 69, vous pouvez lire aussi, au verset 7 toujours, c'est toujours verset 7, c'est étonnant. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, l'Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage, je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Il était vraiment un étranger pour ses frères et un inconnu pour les fils de sa mère, et qu'il ne porte pas la honte, que ceux qui te cherchent ne soient pas confus en me voyant, quoi. Parce que pour tout le monde, il n'était pas légitime. Alors, vous savez qu'il a tué Goliath. Donc on retourne dans 1 Samuel. Bon, vous connaissez toute cette histoire, je ne vais pas vous la raconter, hein. Par contre, il y a des détails quand même que je vais vous mettre en évidence. Samuel, donc 17, c'est l'histoire de Goliath. Et au verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, mais de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Abner, c'était quand même le Mossad, hein, c'était le service secret. Il n'y avait rien qui se passait dans le royaume d'Israël qui échappait à Abner. Et Abner, il dit, mais de qui est-il le fils? Je l'ignore. Ben, informe-toi donc. De qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Il avait les trois frères dans l'armée, les frères, les fils d'Ésaïe, et le général en chef de l'armée d'Israël ne savait même pas qui était David et de qui était le fils. Ça prouve qu'il y avait un gros doute sur la paternité. Donc et David, il dit, de qui es-tu le fils? Parce que ça intéressait quand même le roi, parce que un bâtard, il n'avait rien à craindre. Par contre, si c'était un fils légitime, il pouvait lui prendre sa place. Et David, il dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethléemite. Bon, pour David, c'était son père. Mais pour tout le monde, ce n'était pas évident. On passe au chapitre suivant. Au verset 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé 6 000 et David 10 000 ». Voilà. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et à moi ?» C'est à moi qu'on donne les 1 000. Il ne manque plus que la royauté. Saül regarda David maintenant d'un mauvais œil, et à partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce qui motive Saül en fait? La jalousie. La jalousie est une porte ouverte, même pour nous, d'avoir vraiment quelque chose. De très mauvais, d'un mauvais œil, comme on dit, mais c'est pas un mauvais œil tel qu'on entend parler dans certaines tribus. C'est vraiment un esprit mauvais. Un esprit esprit mauvais. La jalousie engendre un esprit mauvais. On continue l'histoire, 1 Samuel 24. Et là, vous allez comprendre pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu. David dans la caverne d'En-Gedi, Saül épargné par David. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3 000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque dans les rochers des boucs, jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Gentiment dit, ça veut dire pour faire ses besoins. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent : Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. David, c'était un guerrier hein, quand même. Il avait décapité Goliath. Sans vergogne. Et là, il coupe un bout de manteau avec son épée. Et là, le cœur, le courage lui manque. Le cœur battit. Pourquoi ? Et il dit à ses gens : Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne et se mit alors à crier après Saül : Ô roi, mon Seigneur ! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent : Voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Ainsi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'était mis en marche ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort ? Une puce ? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de s'adresser à Saül ces paroles, Saül dit : Est-ce bien toi, mon fils, David ? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David : Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, ne laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Alors, on va se remettre dans la situation. Vous êtes dans le désert, à En-Gedi. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, je vous ai remis sur le lien WhatsApp qu'avait fait Pierre David Taubois dans l'Oasis d'Enguedi, les lieux mêmes où s'est passée cette scène. Donc, si vous voulez voir, c'est un petit film, savoir où est Enguedi. Vous êtes à Enguedi, dans une caverne cachée, traquée par 3000 hommes quand même. Et puis vous avez le chef de l'armée qui arrive, et puis voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que vous avez quand même pas mal souffert parce que vous avez crapahuté pendant des jours et des jours dans le désert à cause de lui. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je serais d'avis de lui tordre le cou. Hein. Un peu. Sauf que David était selon le cœur de Dieu. Donc, pour David, le problème, ce n'était pas Saül. Il savait que Dieu était souverain. Il savait qu'il avait été aussi loin de l'Éternel, puisqu'il aurait pu dire, enfin bon, lui, c'est loin de l'Éternel, mais il a été rejeté. Moi aussi, j'ai été loin par Samuel. Donc c'est moi le Messie. Enfin, c'est le Messie, ça ne veut pas dire, c'est vraiment celui qui a l'onction. Donc je suis légitime pour le tuer. Ben non, David, il a dit, effectivement, je suis potentiellement le roi d'Israël, mais je ne me vengerai pas, je ne ferai pas les choses par moi-même. Dieu me donnera la royauté le jour où il voudra me la donner. Et je ne tuerai jamais mon prédécesseur. Je ne me vengerai jamais de mon ennemi. Deuxième chose aussi, la vengeance. On a parlé de la jalousie, la vengeance. Qu'il n'y ait jamais d'esprit de vengeance parmi les chrétiens. On le lira dans Romains 12 à la fin. Pour continuer, dans 1 Samuel 25, je vous laisserai lire, c'est l'histoire de Nadab et de sa femme Abigaïl. Vous savez, Nadab, qui David avait gardé les troupeaux, enfin avait gardé les gens, les bergers de Nadab, il les avait protégés des pillards, parce qu'il y avait quand même pas mal de pillards. Et puis un jour, il a quand même demandé, est-ce que vous pouvez nous donner à manger, parce que nous on n'a rien à manger, on est là, on est des guerriers, quoi. Puis l'autre, il a dit, qui est David? Et là, on voit aussi que David n'était pas légitime, puisque qui est cet esclave en fuite, quoi. C'est quasiment... vous verrez, je vous laisse lire le chapitre 25. Et donc David a voulu, pour le coup, là, il voulait se venger. C'était un moment, il a dit, bon, c'est bon, quoi. Et au moment où il voulait se venger, il y a Abigaïl, qui est la femme qui a très bien agi, qui a plein de bon sens, et qui a dit, je viens, je te donne, ne te venge pas, que l'Éternel ne te charge pas du sang de la vengeance. Et donc il a été arrêté par la femme de Nadab et a dit, merci, parce que je bénis l'Éternel parce qu'il m'a arrêté et que je n'ai pas versé de sang innocent, enfin de sang innocent, bien sûr qu'il y en a un qui était coupable, mais toute la famille, là, il voulait tuer tout le monde. Je n'ai pas versé de sang innocent. Et donc là aussi, il s'est passé une chose, il aurait pu tuer que Nadab et laisser tout le reste en vie. Non, il a laissé faire, et Nadab est mort, je dirais naturellement, par sa méchanceté. Et là, du coup, il a pris sa femme comme épouse. Et quand vous lisez le texte hébreu aussi, Abigail, quand elle vient voir David, a dit, quand tu seras roi, que l'Éternel t'aura élevé, souviens-toi de ta servante. Ça, c'est joliment dit aussi en français, mais ça veut dire, prends-moi comme concubine, en hébreu. Voilà, donc c'est ce que David a fait. Mais pour ça, il ne fallait pas qu'il tue le mari, parce que sinon, ça aurait été la femme du riz une deuxième fois, quoi. C'est-à-dire, donc il a laissé naturellement les choses faire. Romains 12 maintenant, en conclusion. Ah bah oui. Alors non, je vais quand même dire pourquoi David est une figure du Messie. David est né à Bethléem. Jésus est né à... Très bien, il y en a une qui suit. David est né dans des circonstances peu banales. Jésus est né dans des circonstances peu banales. Parce que Jésus aussi, on s'est demandé qui était le Père. Hein. Sauf que là, pour le coup, c'était Dieu. David fut rejeté de tous, y compris les siens. Jésus fut rejeté de tous, y compris les siens. David ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait d'un roi, puisque de toute façon, il n'était pas légitime. Il était, bon, voilà, c'était. Et là, Jésus aussi ne correspondait pas à l'image, enfin tout au moins dans sa première venue, à ce qu'on faisait d'un roi, puisque son royaume n'était pas de ce monde. David a été choisi par Dieu. Jésus a été choisi par Dieu. Il a même été envoyé, il était même Dieu. David était le bon berger qui protégeait les brebis chétives et fragiles. Jésus est le bon berger qui, pareil. David était le roi qui a protégé le peuple de Dieu et qui a donné la paix parmi les nations, la paix au royaume d'Israël parmi les nations. Ah, je te donnerai ma note. Et Jésus, c'est pareil, il a protégé Israël et spirituellement, il a donné la paix parmi les nations. David était celui qui a préparé tout afin que le temple soit construit. Jésus est celui qui a tout accompli pour être le temple de Dieu. Les similitudes entre David et Jésus sont troublantes. Et donc, on va dans Romains 12. Parce que ça, c'est l'histoire de David. Donc, il y avait deux enseignements à en tirer. C'était de ne pas être jaloux et de ne pas se venger soi-même. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Grosso modo, ne vous conformez pas à ce que font tout le monde, mais ayez de beaux yeux. Renouvellement de l'intelligence, ayez de beaux yeux, des yeux spirituels, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. David avait-il une haute opinion de lui-même? Il était roi quand même, il a été oint par Samuel. Ça ne l'a pas empêché le lendemain de retourner garder ses moutons au milieu des ours et des lions. Il n'avait pas une trop haute opinion de lui-même, puisque pour lui, loin de l'Éternel, c'était Saül. C'est pour ça qu'il n'a jamais porté la main dessus. Il aurait pu dire, ah ben ça y est, maintenant je suis roi, alors toi tu dégages. Non, nous aussi, nous devons aussi nous revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que nous sommes tous les membres, n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, c'est ce que David a fait, bénissez et ne maudissez pas, c'est ce que David a fait, il n'a jamais maudit Saül, même à la mort de Saül, il a fait un cantique funèbre en disant que c'était un héros en Israël. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce que David a fait. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça aussi, c'est David à essayer. Après, ça dépend de nous. Si quelqu'un ne veut pas être en paix avec toi, tu peux pas avoir la paix. Le verset important, c'est celui-ci. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est tout un programme de la vie chrétienne. J'en ai un autre. On peut le lire dans Éphésiens au chapitre 4. Et c'est là-dessus que je m'arrêterai. Au verset 17. Voici donc ce que je dis, que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. En fait, ça c'est les païens. Hein. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, nous chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Donc le rôle du chrétien, le combat du chrétien, le bon combat du chrétien, c'est de se dépouiller du vieil homme. C'est le combat de tous les jours. Et c'est pas de rester, une fois que tu es dépouillé du vieil homme, rester tout nu. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ce que David a fait quand il était en colère contre Nadab. Bon, la femme d'Abigail est venue, mais disons que tout de suite, sa colère est tombée. Parce que si vous restez dans une colère, vous donnez accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça veut dire, vous savez que les jours en hébreu, en Israël, ça commence le soir au coucher du soleil. Donc ça veut dire, ne remettez pas au lendemain. C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas, que de ce jour-là, vous pouvez être en colère, mais pardonnez avant qu'on change de jour. Sinon, vous donnez accès au diable. C'est-à-dire, cette colère se transforme en quoi? En amertume. Ce qui est pire. Que celui qui dérobait, celui qui vole, ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est pas marqué qu'il travaille pour s'enrichir et garder l'argent tout pour lui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que nos paroles soient bénissantes et édifiantes. Et là, au milieu de tout ça, il y a « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je me souviens de ta prédication de la semaine dernière où tu disais que Dieu pouvait être affligé. Ben, le Saint-Esprit aussi. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.